c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui au sommaire, les conséquences des mariages précoces et forcés au Mali, au Faso, campagne pour la promotion des femmes au sein de la filière du coton, Areva finance des programmes de développement au Niger, crise de l'eau dans le nord du Mali et enfin les syndicats africains tentent de s'unifier. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel+, restez avec nous. Lors de son voyage au Kenya, Barack Obama, le président des États-Unis, a consacré une partie du discours qu'il a prononcé à Nairobi à la défense des droits des femmes et des filles. Il a condamné la pratique de l'excision, la qualifiant de barbare et la considérant comme inadaptée au XXIe siècle. Il a également fustigé les mariages d'enfants forcés et célébrés trop tôt. L'occasion pour Sahel+, de se pencher sur le sujet au Mali. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 27% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, ce qui a de lourdes conséquences pour la santé. Reportage à Kaï de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Dans cette région, le mariage forcé ou obligatoire est devenu une tradition. C'est pourquoi des jeunes filles de 11 ans sont données en mariage et tombent enceintes, comme la petite Binta, âgée de 11 ans. Jawara Danjo Sidibé, sage-femme.
Arrivé ici, nous on a constaté déjà que l'utérus voulait s'ouvrir. Nous on a fait immédiatement la césarienne. L'enfant est né vivant mais mort-né apparent. Quelques minutes après, l'enfant est décédé. Et puis, les suites de post-opératoires se sont compliquées à des suppurations parce qu'elle avait déjà fait des complications avant d'arriver chez nous ici.
Elle devient ainsi l'une des victimes du mariage précoce dans la région de Kaï, où 27% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Docteur Sédou Diallo, médecin-chef.
En 2015, nous avons recensé deux cas. Une fille de 12 ans avec une grossesse. Une fille de 11 ans avec une grossesse. Dans un premier cas, elle est venue déjà en train d'expulser. Et nous n'avons que constaté. Nous avons aidé à l'accouchement. Les deux cas ont tenté des accouchements à domicile. Les deux grossesses se sont soldées par des morts-nés.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, 74% des femmes de la région de Kaï sont mariées avant l'âge de 18 ans. Sangare Aïssata Sangare, de la direction régionale de la promotion des femmes de Kaï.
Les gens disent que vraiment, si ils ne marient pas les filles à un âge aussi jeune comme ça, que lorsque la fille va grandir et qu'elle va faire les péchés, qu'eux seront punis par le Tout-Puissant Allah. Le phénomène persiste à nos jours. Ensuite, il y a l'extrême pauvreté, parce que la fille, à un certain âge, elle devient une charge pour la famille. Donc, ils sont obligés de se débarrasser de ses enfants pour les donner à d'autres familles, afin d'amoindrir un peu les charges de la famille.
Ces mariages précoces ont des conséquences pour les fillettes, surtout en cas de grossesse. Docteur Sédou Diallo, gynécologue.
Les conséquences les plus couramment rencontrées à notre niveau, c'est des morts-nés chez les fœtus. Et les conséquences les plus redoutables chez la maman que nous rencontrons très souvent à notre niveau, c'est des fistules vésico-vaginales qui amène la société à rejeter la femme parce qu'il y a des fuites d'urine chez ces dames-là. La même société qui a occasionné leur retrait de l'école, qui a occasionné aussi ce mariage précoce, c'est la même société qui rejette ces dames-là.
Et ce n'est pas tout. Jawara Danja Sidibé, sage-femme.
Ça peut donner à des femmes qui ne vont plus accoucher et puis qui ne vont plus avoir envie des hommes. Ils vont avoir des traumatismes psychologiques.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Direction le Burkina Faso pour nous pencher sur la filière coton. Surnommé l'or blanc du Burkina, le coton a une place prépondérante dans l'économie burkinabé, faisant vivre plus de 2 millions de personnes. La Sofitex, société de fibres textiles du Burkina, veut désormais encourager les femmes à plus s'investir dans la culture du coton. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Ici au Faso, malgré la poussée permanente de l'or, le coton reste toujours le premier contributeur à l'économie nationale. Mais la culture du coton reste aussi dominée par les hommes. Pour donc inverser la tendance, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, a décidé d'encourager particulièrement les femmes à la culture du coton. Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex, explique.
Dans les exploitations individuelles, dans le cadre de l'organisation de cette exploitation, les femmes soutiennent souvent leur mari. Mais ce que l'on souhaite surtout encourager, c'est les femmes qui ont décidé par elles-mêmes de se mettre en groupement de producteurs de coton et de s'organiser, prendre les crédits et puis les rembourser tranquillement. C'est surtout cette catégorie-là qu'on souhaite véritablement encourager.
In concreto, comment se traduit cet encouragement ? Suivant la réponse de Jonas Bayoulou.
On ne donnera pas de l'argent frais à quelqu'un. L'objectif visé étant de créer les conditions qui permettent aux producteurs de se fixer davantage sur la culture du coton. Donc tous les prix qui seront donnés sont des prix en nature. C'est clair que lorsque vous avez équipé mieux le producteur, lorsque vous l'avez doté de meilleurs moyens de travail, lorsque vous l'avez équipé en magasin pour mieux stocker ses intrants, vous avez préservé un certain nombre de surcoûts qu'ils vivaient et qui vont faciliter le travail qu'ils réalisent sur le terrain.
Que pensent les hommes producteurs de coton de l'accent mis sur les femmes ? Écoutons ce qu'en dit le cotonculteur Ardiouma Sanou.
Oh, mais je trouve ça une bonne chose. Aujourd'hui, là, tout le monde doit contribuer au développement. Puis tout ça, là, ça part à la bonne sens de la famille. Aujourd'hui, si moi, je n'ai rien, la femme va m'épauler. Voilà. Surtout, on a des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Si moi, je n'ai pas de sous, elle peut me compléter.
Notre cotonculteur avait à ses côtés Mariam, son épouse. Elle explique en langue nationale Djoula comment les femmes s'organisent pour cultiver le coton.
Nous avons été le Sénat.
Je vais faire un hectare. Nous, les femmes, on est organisées en groupement. Et à tour de rôle, on passe dans le champ de chacune pour cultiver. C'est de la sorte qu'on s'entraide. La culture du coton est certes difficile, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada. Détour à présent par le Niger pour évoquer les relations compliquées entre Areva, la société civile et l'État nigérien. Malgré sa restructuration et des pertes abyssales, le groupe français a signé fin juin une convention de financement d'un projet de développement local d'environ 12 milliards de francs CFA avec le gouvernement du Niger. Longtemps accusé de ne pas contribuer par des actions concrètes au développement du pays, en particulier dans la région dans laquelle il exploite l'uranium depuis plus de 40 ans, le géant français du nucléaire Areva va donc s'investir davantage. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le financement de ce projet est l'un des engagements pris par Areva lors de la signature de l'accord de partenariat stratégique avec le gouvernement nigérien en mai 2014, accord qui sanctionnait les longs mois de discussions entre les deux parties pour le renouvellement des conventions minières qui les lient. Ibrahim Kourmo est le directeur de la responsabilité sociétale d'Areva Mines Niger.
C'est un total de 11,4 milliards sur un projet d'irrigation dans la vallée de l'Aïr, le Tamesna et donc l'Iraser. Donc il y aura des aménagements hydro-agricoles, il y aura également des puits pastoraux.
Est-ce à dire aujourd'hui que Areva a bien perçu le sens des appels des autorités nigériennes pour aller dans le sens du développement?
Areva a toujours été donc un partenaire de l'État du Niger. De tout temps, Areva et les sociétés dans lesquelles elle opère au Niger ont toujours contribué dans le cadre du développement local. En fait.
Le gouvernement nigérien vise un double objectif à travers l'exécution de ce projet, selon le ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé.
C'est un geste remarquable hein, qui montre le dynamisme de notre coopération entre le groupe Areva qui exploite les mines d'uranium du Niger et le gouvernement nigérien. Ce projet Iraser Tamesma Aïr couvre quand même une superficie très importante. C'est un élément important pour fixer d'abord les populations, leur donner en tout cas de quoi s'occuper, non seulement d'assurer leur propre sécurité alimentaire, mais d'avoir aussi des ressources, puisque pour une large part, il y a des recettes qui pourront parvenir donc, de ces exploitations et qui permettront donc progressivement de créer un pôle de développement, de créer des emplois et de créer une certaine stabilisation économique et par conséquent aussi sociale.
La convention qui a été signée l'a été pour le financement de la phase d'implantation même du projet, puisqu'il y a eu déjà 2 années concluantes d'expérimentation chez Goumaman et le chef du projet.
Dans la phase pilote, nous avons mis en valeur 120 hectares pour un objectif physique de 100 hectares. Nous sommes donc arrivés à 120%. Le projet Iraser a démontré quels sont les systèmes d'irrigation les meilleurs pour la région, quelles sont les cultures les meilleures pour la région et quels défis auxquels nous allons faire face, notamment l'organisation des producteurs, la bonne gestion et surtout la commercialisation. Pour la phase de développement, la phase d'implémentation, nous allons intervenir dans le Iraser sur une vingtaine de sites, mais également nous allons peut-être faire jusqu'à 60 sites dans l'Aïr, les petits jardins privés. Le tout, c'est 1000 hectares que nous visons pour les 5 ans.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Dans les pays sahéliens, la rareté de l'eau pose de nombreuses problématiques sur la santé, l'environnement et l'économie. Ce manque d'eau est particulièrement sensible dans le nord du Mali, nous dit notre correspondant, ajoutant qu'à Gao, c'est un véritable calvaire pour les populations. En cause, la station de production est aujourd'hui incapable de satisfaire les besoins en eau potable des habitants. Reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré.
Depuis plusieurs mois, certains quartiers de la périphérie de Gao ont cessé de voir leur robinet couler. Voici le témoignage de Madame Meiga.
Pour avoir de l'eau, on va jusqu'au 7 pour aller chercher de l'eau. De 0h jusqu'à 5h ou 6h30 du matin, on n'arrive même pas à trouver un seau d'eau. Pour avoir aussi la charrette, il faut payer. Quand tu payes aussi, tu vas payer très dur. Parfois, tu demandes de t'amener 6 bidons, par exemple, on va te dire que tu vas payer au moins 3000 francs ou bien 2500. Quand tu n'en es pas, comment tu vas trouver cette eau-là? Sans l'eau, on ne peut pas préparer, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire le lavage. On en est marre.
Pour comprendre les difficultés dans la production de l'eau potable, nous avons rencontré un responsable de la SOMAGEP, comprenez par là la Société malienne de gestion de l'eau potable à Gao, qui a voulu garder l'anonymat. Il nous fait comprendre que l'usine de production est incapable de satisfaire ses 5000 abonnés. Le besoin de la population de Gao en eau potable s'élève à 11 000 mètres cubes par jour, alors que l'usine ne produit que 7 500 mètres cubes par jour. Aux 5000 abonnés de la société, ça ajoute 794 branchements clandestins. Ainsi, les quartiers d'Aljana Bandia, Soussoukouira Extension Gadei sont privés d'eau et à Soussoukouira Centre, au château, il faut veiller jusqu'à 2h du matin pour pouvoir être servi en eau potable. Voilà donc comment se présente le quotidien des populations de Gao en cette période de forte chaleur. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et la solidarité font la force. Les syndicats en Afrique tentent de mieux s'organiser pour mettre en pratique cet adage universel, car l'unité syndicale reste une des faiblesses d'une grande partie du mouvement syndical africain. Pour ce faire, des délégués venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo, étaient à Cotonou les 24 et 25 juillet derniers pour poursuivre les réflexions afin de réussir cet important chantier pour les travailleurs africains. Écoutons le reportage de notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Unité de lutte et solidarité internationale comme une des réponses aux agressions du système capitaliste contre les travailleurs et les peuples. C'est sous ce thème que les centrales syndicales des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvées ce week-end à Cotonou pour tenter de concrétiser leur rêve de s'unir afin de défendre leurs intérêts. Basile Bassolement, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, nous parle ici de l'essentiel de ces revendications communes aux travailleurs de l'Afrique de l'Ouest.
La question de l'accord des partenariats économiques, la question des programmes d'ajustement structurel, le bradage du patrimoine national et ainsi de suite dans les différents pays. Donc voilà des questions comme ça qui nous interpellent, mais aussi le mode de gestion et la gouvernance de nos différents chefs d'État en termes de manipulation des textes fondamentaux dans nos différents pays. Nous estimons que l'organisation syndicale, à travers sa fonction principale qui est l'éducation, doit se donner les moyens d'éveiller les consciences des travailleurs et du peuple tout entier afin qu'ils prennent en compte dans toutes ses préoccupations, ses revendications, la nécessité de se libérer. Et la liberté ne se donne pas, la liberté s'acquiert à travers une lutte consciente et organisée.
Pour les CICO de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, identifie formellement les agresseurs et parle ici du but de la rencontre de Cotonou.
Le but, c'est l'unité et le développement de la solidarité contre les agressions des institutions, le FMI et la Banque mondiale. Et dans nos pays que nous avons réunis, nous pensons que c'est la France qui est à la tête de cette agression contre nous, au Bénin, au Burkina et j'en passe. Cotonou va décider de l'unité des pays, des syndicats, des confédérations des différents pays.
Mais pourquoi les travailleurs africains inaugurent-ils ce rêve de défendre ensemble leurs intérêts? Basile Bassolement de la CGT Burkina Faso.
Les centrales syndicales prennent conscience que la force réside dans l'union. Ça fait à peu près la troisième rencontre où nous nous retrouvons pour discuter des préoccupations transversales et qui touchent l'ensemble des travailleurs dans nos différents pays. Et la priorité est mise sur la sensibilisation, la conscientisation et les échanges entre centrales syndicales des mêmes pays, de sorte à ce que les forces soient unies pour mieux traiter et porter au haut la voix de l'ensemble des travailleurs de chaque pays.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Bagni sunya lilla, yembo sunya lilla, bagni wuya fola, yembo wuya fola, bagni na fi.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Joselle Morissin. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Fally Kouyaté et son Dianamo. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Bangi sunya lila, yemma sunya lila. Banye uya fola, yemba uya fola na. Kono I banye ngarabiko amolu. Yento nyarabiko, jankaro miye, dottoro mabasi soro nyalo, adon jarabi belema.